E-Radio, l'invité de la rédaction, Cassandre Thomas.
Marlène Viardot, vous êtes ethnolinguiste et spécialisée dans la sauvegarde des langues autochtones. Bonjour Marlène Viardot.
Bonjour Cassandre Thomas.
Merci d'être avec nous sur E-Radio. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier ? Qu'est-ce que ça veut dire être ethnolinguiste ?
Ethnolinguiste, c'est les personnes qui s'intéressent aux langues et aux rapports entre les langues et les peuples. Ce n'est pas de la linguistique pure. Ce n'est pas de l'ethnologie qui observe juste les populations en faisant des observations ou des comparaisons. C'est de l'observation de la langue utilisée par les peuples.
Quelle est la différence entre une langue autochtone et un dialecte ?
Eh bien, je dirais que ça se ressemble et la différence va se trouver au niveau politique et historique des territoires. Une langue autochtone, ça veut dire qui était présente sur le territoire avant l'arrivée d'une culture dominante, d'envahisseur. Un dialecte, c'est une langue, un parler, qu'il n'y a pas de jugement de valeur dans ce mot-là. C'est ni bon, ni mauvais, ni moins bien qu'une langue plus importante ou pas. C'est un parler qui est présent sur un territoire à côté d'un parler plus important.
Par exemple, en France, on va plutôt parler de dialecte que de langue autochtone quand on se réfère au breton ou au basque ou au corse, par exemple.
Oui, tout à fait. En revanche, dans des pays ou dans des endroits du monde où il y a eu des situations de colonisation, il y a des langues parlées sur ces pays-là avant l'arrivée de cultures dominantes qui sont dites autochtones et pas dialectes. Parce que même s'il n'y a pas de rapport de famille de langue, le contexte historique fait qu'on dit autochtone plutôt que dialecte, pour redonner comme une place à ces personnes-là et une importance dans le chemin qui a été fait.
En France, on parle quasiment plus les dialectes, ou donc langue autochtone, mais on a dit plutôt dialecte pour la France. Comment est-ce que ces langues disparaissent ? Quel est le processus ?
Alors, le processus de disparition des langues en France, il est dû à la domination du français par des politiques qui ont voulu unifier le pays. Ça a commencé avec d'abord tout ce qui était religieux. C'était plus pratique de traduire la messe en une seule langue plutôt que en plusieurs langues locales. Et puis après les premières guerres, la Première Guerre mondiale, il y a eu vraiment des difficultés de communication qui sont remontées. Donc, jusqu'à la Première Guerre mondiale, les parlers dialectaux étaient encore assez répandus. Même s'il y avait des répressions, etc., ça pouvait encore s'entendre facilement. Mais après ça, il y a eu vraiment une volonté d'unification encore plus forte. Ce qui fait que les parlers dialectaux étaient interdits à l'école, les enfants étaient punis. C'était plus difficile pour les adultes de trouver du travail sans parler le français. C'était devenu obligatoire. La langue de l'administration est devenue le français partout, absolument. Donc, toutes ces raisons ont mené à une perte de la transmission de la langue. On ne voyait plus l'intérêt. Si on ne peut plus travailler, si on ne peut plus parler au quotidien dans cette langue-là, bah, il vaut mieux adopter la langue dominante. Voilà ce qui a été pensé à l'époque.
Plus généralement, si on sort du cadre juste français, combien, est-ce qu'on a une idée de combien il existe de langues parlées dans le monde ?
On a une idée. Aujourd'hui, très précisément, on est à 7168 langues recensées.
Et en Europe, spécifiquement, vous avez une idée ?
Je sais qu'en Europe, il y a seulement 4% des langues qui sont parlées. En fait, pour 4% des langues, il y a beaucoup de gens en Europe qui parlent seulement 4% des langues. En comparaison avec l'Océanie, par exemple, où là, il y a un pourcentage beaucoup plus important qui atteint plus de 50%, je crois, alors qu'en Océanie, il y a beaucoup moins de monde qu'en Europe. Donc ça veut dire qu'il y a un foisonnement de langues en Océanie qui est partagé par des petites communautés. Tandis qu'en Europe, il y a des grands groupes de personnes qui vont parler quelques langues seulement.
Ça amène à ma question suivante. Donc vous l'avez dit plus tôt, même s'il y a plus de 7000 langues aujourd'hui qui sont parlées, il y en a au sein de celles-ci qui sont plus dominantes que d'autres, comme l'anglais en premier lieu. La présence de ces langues dominantes, elle constitue une menace pour les autres ?
Oui, tout à fait. L'importance donnée à des langues dominantes, forcément, ça influe sur l'importance donnée à des langues plus légères, on va dire, moins parlées, parce que cette domination s'assortit de considérations de valeur. On va considérer que la langue dominante est plus importante sous tous les aspects. Elle est plus intéressante, elle est peut-être plus facile à apprendre, elle transmet une façon de voir le monde qui est la meilleure. Elle s'impose dans tous les domaines, donc les domaines scolaires, professionnels, les médias, l'administration, le domaine culturel. Et tout ça, ça fait que les langues locales n'ont plus de place pour pouvoir être pratiquées et être vécues.
Et à partir de quand on considère qu'une langue, elle est menacée ?
C'est l'UNESCO qui choisit les statuts à donner à une langue. Donc ça prend en compte plusieurs critères. Et je voudrais vous citer ce que dit vraiment l'UNESCO par rapport au début d'une mise en danger. Une langue est mise en danger lorsque ses locuteurs et locutrices cessent de la pratiquer, réservant son usage à des domaines de plus en plus restreints, et qu'elle ne se transmet plus de génération en génération. Autrement dit, il n'y a plus de nouveaux locuteurs et nouvelles locutrices, que ce soit chez les adultes ou les enfants.
Et donc, vous êtes spécialisée sur la préservation des langues autochtones. Pourquoi c'est important, selon vous, de préserver cette diversité linguistique ? Parce que, après tout, les langues, vous nous l'avez bien expliqué pendant tout le début de l'interview, elles font que évoluer, apparaître, disparaître. Le français, avant, c'était juste un dialecte. Peut-être que lui aussi disparaîtra un jour. Pourquoi, tout simplement, ne pas laisser faire les choses ?
Merci pour cette question. C'est effectivement un sujet débattu. Pourquoi se préoccuper de ce phénomène qui a l'air plus ou moins naturel ? Et c'est vrai, il y a toujours eu des langues qui ont disparu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette disparition, elle est fortement accélérée et c'est important de s'en occuper pour plusieurs raisons, notamment liées à l'identité culturelle.
Pardon, quand vous dites que le processus, il est fortement accéléré, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'époque à laquelle on vit, il y a vraiment des langues dominantes qui sont dominantes plus par rapport à d'autres époques, par exemple l'anglais ?
Oui, c'est ça. Même si il y a quelques siècles, il y avait des langues dominantes, elles n'étaient pas autant qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde globalisé avec les communications technologiques qui permettent plus de rapidité. Par exemple, ça c'est un exemple. Il y a plus de communication, tout est beaucoup plus facile d'accès aujourd'hui, géographiquement ou juste pour se parler, on peut parler avec quelqu'un à l'autre bout du monde facilement aujourd'hui. C'était pas quelque chose qui était facile au XVIIe.
Et la disparition des langues, donc, c'est aussi un effacement d'une culture, parce que la langue, elle se limite pas aux simples mots, elle reflète aussi une culture, une manière de voir les choses, de penser. Et c'est en ça qu'il faut les préserver ?
Oui, voilà. Ça, c'est une des raisons qu'il n'y a pas une seule façon de voir le monde, que toutes les façons de voir le monde peuvent cohabiter sans jugement de valeur. Il y a aussi une idée fausse qui est que la traduction peut tout traduire. Voilà. C'est pas grave s'il y a des petites langues ou il y a des langues qui se perdent, parce que de toute manière, on peut traduire les concepts, les mots, etc. Mais ça, c'est faux. On connaît tous et toutes, on a toutes et tous des exemples en tête de mots ou d'expressions dans d'autres langues ou même dans notre langue qui ne peuvent pas se retrouver. On ne peut pas traduire directement. Je pourrais même vous citer des mots qui sont passés dans notre vocabulaire presque courant, comme le mot kawaii du japonais, qu'on traduit en français par trop mignon. Mais voilà, on a bien deux mots en français pour en traduire un seul en japonais.
D'accord. Et donc, très rapidement, juste pour terminer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, justement, pour préserver les langues ?
Il y a plein de choses qui existent déjà. Selon le degré de connaissance de reconnaissance du statut en danger, on peut trouver déjà des écoles, des cours pour enfants qui sont donnés. On a l'exemple en France avec les écoles d'Iwan ou les canons de Reta. Il y a plein de manifestations culturelles un peu partout. On voit régulièrement des festivals en France sur d'autres cultures, d'autres communautés. Je reparle de l'Amazonie avec le chef Raoni qui vient par exemple à Bordeaux, à Darwin, pour parler de la situation de son peuple. Il y a beaucoup de choses au niveau des médias qui sont faites. On trouve des radios locales, on trouve des journaux locaux. Des podcasts de plus en plus qui sont apparus, par exemple, avec les confinements. Voilà, il y a des choses qui sont mises en place pour faire valoriser la langue, la mettre dans l'espace public, la faire entendre. Et puis, dans un registre un peu plus sérieux, on trouve aussi des textes de loi. Voilà, parce que toutes ces actions sont certes très bien, mais il faut une reconnaissance politique à un moment ou à un autre.
Oui, les actions de la société civile, elles servent à quelque chose, mais il faut aussi que les pouvoirs publics s'en emparent. Merci Marlène Viardot, je rappelle que vous êtes ethnolinguiste et spécialisée dans la sauvegarde des langues autochtones.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.